En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez bien que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Il y a plein de choses à écouter dans cet évangile. À l'époque où les évangiles sont rédigés, mis par écrit, c'est-à-dire vers les années 60, avant la destruction du temple de Jérusalem en 70, à cette époque-là, et puis également avant même la venue de Jésus, il y a eu tout un courant littéraire qui s'est développé en Israël, qu'on a appelé le courant apocalyptique, et qui voulait pallier en quelque sorte à l'absence de courant prophétique oral. Les derniers grands prophètes remontaient à plusieurs siècles en arrière, et on avait l'impression à l'époque qu'il y avait une sorte de vide. Et alors des scribes et autres théologiens juifs se sont mis à écrire des livres dans un style un peu particulier qu'on appelle le style apocalyptique, pour prendre une image un peu simple mais qui va vous faire comprendre. Au fond, c'est, vous avez tous vu déjà à la télévision comment les personnes sautent en longueur, les gens qui se mettent à courir puis ils prennent leur appui sur un pied une deuxième fois et hop, ils essayent d'aller le plus loin possible et hop, ils tombent, et là on mesure. Et le principe de la littérature apocalyptique, c'est un peu pareil. Au fond, on est dans un présent bouleversé, chamboulé, et puis on se dit, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Alors on prend son élan, toc, on saute et on se retrouve au bout et on dit, ah oui, à la fin, Dieu triomphera, c'est sûr. Dieu triomphera du mal et il remportera la victoire. Et donc, on fleurit des apocalypses qui étaient connues au temps de Jésus. Et puis, il y en a une qui est chrétienne et qui est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. C'est l'Apocalypse de Saint Jean, écrite à la toute fin du 1er siècle, quasiment en même temps que son évangile et que ses lettres. Saint Jean, qui maîtrisait ce style littéraire, a écrit ce livre. Et ici, nous avons des paroles de Jésus qui sont exprimées dans ce style apocalyptique, donc codées avec des images qui sont prises dans le grand réservoir à images de l'Ancien Testament. Par exemple, les étoiles qui se décrochent et qui tombent sur la terre, le soleil qui s'obscurcit, etc. Ce sont des images qui se trouvent déjà dans l'Ancien Testament pour parler effectivement de ce qui se passera à la fin quand la victoire de Dieu se manifestera sur les puissances des ténèbres. Ce n'est pas pour autant à prendre au pied de la lettre, comme si on devait nous décrire ici avec moult détails croustillants ce qui allait se passer à la fin des temps. Et surtout pas pour laisser notre imagination se dire, ah oui, avec tout ce qui se passe là ces dernières heures, On est certainement assez proche de la fin des temps, n'est-ce pas? Vous savez, tous ceux qui ont voulu faire des prédictions de ce type-là ont forcément été piégés à toutes les périodes de l'histoire de l'Église, et donc faut surtout pas toucher à ça, c'est parfaitement inutile. Que dit Jésus lorsqu'il viendra, lorsque vous verrez arriver tout cela, dit-il, sachez que le Fils de l'homme est proche à vos portes. Et encore, il dit, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Voilà, on n'aura pas besoin de regarder si c'est vraiment lui, où est-ce qu'il est, etc., sur la planète. Avec grande puissance et grande gloire. Ce sera un événement cosmique, mondial en quelque sorte, et qui sera visible de partout et de tous. Donc, c'est pas la peine d'écouter tous ceux qui vous disent « Ah oui, mais avez-vous regardé là, tel prophète, tel personnage, telle chose, tel événement ?» Non, Jésus viendra un jour dans la gloire et il nous dit qu'il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. C'est un long passage de l'évangile selon saint Marc qui a été amputé ici par la liturgie et qui concerne à la fois la fin de Jérusalem qui a eu lieu en 70 avec le siège des armées romaines et puis s'appuyant sur cette prophétie que Jésus en fait, une projection sur la fin des temps qu'il annonce aussi, et les deux événements sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est pour ça que vous avez des phrases du genre « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive ». Là, Jésus parlait de la fin de Jérusalem qui allait devenir, au moment où il parlait, quelques 40 ans plus tard. Mais il ne parle pas de sa venue glorieuse. Voilà, ce sont des paroles un peu complexes qui nous sont données dans cet évangile et puis qui nous assurent effectivement qu'au-delà de toutes les perturbations engendrées par le péché, par le mal, Dieu triomphera et il établira son règne d'amour et de paix. Mais direz-vous, vous n'avez toujours pas parlé de ce qui nous tourmente en ce moment, ce qui vient de se passer sous nos yeux, et qui sont des choses absolument barbares et horribles. Et ce à quoi ça m'a fait penser personnellement, c'est ceci, c'est qu'au fond, un des passages de l'évangile les plus importants, c'est la parabole du livret et du bon grain. Vous connaissez la parabole du livret et du bon grain. Il nous dit qu'on a semé du bon grain et puis qu'au moment où ça commence à lever, on s'aperçoit qu'il y a aussi de l'ivraie et qu'il y a aussi de la mauvaise herbe et qu'il y a aussi du mal. Qui a fait cela? Certainement un ennemi, répond Jésus dans la parabole. Veux-tu que nous allions arracher, faire le tri, etc. Non, laissez-les pousser tous ensemble jusqu'à la moisson. Et évidemment, plus la moisson est proche, et plus la mauvaise herbe devient visible, a tendance à se faire voir. D'une part, ça, nous devons toujours avoir ça présent à l'esprit que, au fond, dans ce monde-ci, le bien et le mal sont mélangés, se côtoient. Et que le mal se développe aussi, et quelquefois, on a le sentiment, à puissance grand V, et avec même beaucoup plus de bruit que le bien. On a l'habitude de dire que le bien ne fait pas de bruit, mais d'une certaine façon, c'est vrai. Le mal fait beaucoup de bruit. D'autre part, cela m'a fait penser aussi à cela, c'est que le seul rempart contre le mal, c'est la prière. C'est l'amour, la charité, c'est la grâce de Dieu au cœur de ce monde. Et que plus dans le monde il y a de cœurs qui prient, qui se tournent vers Dieu, qui se convertissent, qui sont à l'écoute de Dieu, qui sont en communion avec Dieu, plus en même temps cela fait un rempart contre les puissances des ténèbres, contre l'œuvre des puissances du mal dans ce monde. En revanche, moins il y a de personnes qui prient et qui s'ouvrent à l'amour de Dieu, plus en même temps les barrières se rompent et on assiste à des délitements, à des effondrements, à des brisures. Et elles prennent des formes multiples. La forme que nous vivons en ce moment et que nous venons de voir, le pape François l'a appelée Troisième Guerre mondiale par morceaux. Et il a dit, il y a 2 jours, vendredi soir, je crois, c'est l'un des morceaux, ce qui vient de se passer. Mais en même temps, les effondrements peuvent prendre des formes parfaitement inodores, invisibles, quand ils sont des effondrements spirituels, des effondrements moraux, des effondrements de nations entières qui se couchent au fond devant le mal et qui adoptent des lois iniques. Ça répand moins de sang apparemment, mais ça fait tout autant de mal et c'est tout aussi dramatique. C'est pour cela que nous devons vraiment nous mobiliser aussi spirituellement, nous mobiliser pour des actions dans la société, pour participer vraiment à la paix, à l'établissement de la paix dans le monde, de la communion entre les hommes, du dialogue, mais aussi spirituellement, en sachant que chaque prière qui s'échappe de nos cœurs est comme une perle de grâce qui tombe sur ce monde et qui vient irriguer le sol trop desséché, engendré par notre fermeture à Dieu. Chaque « Je vous salue Marie » que nous récitons est comme une perle de grâce qui vient irriguer le sol. Et en ce sens, on a pu parler de certains monastères, certaines communautés, certains lieux spirituels comme de remparts qui au fond, sont comme des paratonnerres. Lorsque j'habitais du côté de Sablé, j'entendais souvent des gens dire ça à propos de l'abbaye de Solesmes. « Oh, on a un paratonnerre à côté de chez nous. » Oh, ben, j'ai dit, c'est bien pratique, comme ça vous pouvez vous tourner les pouces, c'est bien. Mais d'une certaine façon, c'est vrai aussi. C'est vrai, c'est que, voilà, on n'a pas la vision claire de ce qui se passe dans le fond des choses, derrière les apparences. On n'a pas cette vision claire, mais si on l'avait, on s'apercevrait que les enjeux spirituels sont immenses et que ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est à une guerre spirituelle aussi, pas seulement une guerre mondiale, mais une guerre spirituelle. Et que dans cette guerre spirituelle, la grâce de Dieu, l'ouverture de nos cœurs à l'amour de Dieu est très importante. C'est pour ça que toutes les démarches que nous pouvons faire pour prier, pour venir supplier le Seigneur, pour porter nos frères au Seigneur, pour demander la miséricorde au Seigneur. Le 8 décembre va s'ouvrir une année sainte de la miséricorde, on en reparlera. Et nous allons être appelés à nous mobiliser pour vraiment manifester la miséricorde de Dieu au monde et la vivre nous-mêmes plus profondément. Eh bien, toutes ces démarches de prière que l'Église nous propose et à laquelle nous allons participer sont autant de façons de tirer le monde vers le haut. Quelqu'un, je crois que c'est Elisabeth Le Sueur, disait « Tout homme qui s'élève, élève le monde. » Nous ne sommes pas une île, nous ne sommes pas seuls. Tout âme qui s'élève, élève le monde. Toute prière que nous vivons tracte le monde vers le haut. Et ainsi devient un rempart contre les forces du mal qui cherchent sans cesse, au contraire, à faire tomber et à tirer vers le bas. Enfin voilà, excusez-moi, ce sont quelques réflexions que je me faisais tous ces temps-ci et qui nous engagent dans nos propres forces intérieures, si j'ose dire, à des démarches spirituelles et de conversion, en voyant bien nos responsabilités personnelles par rapport à tout cela. Et nous ne nous contentons pas de nous lamenter ou simplement de faire brûler une bougie. C'est bien, mais il faut plus encore. Il faut une mobilisation spirituelle, puis un sursaut moral aussi. Peut-être malheureusement faudra-t-il que ce soit engendré à travers beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs pour que nous nous ressaisissions. Mais le redressement ne pourra pas se faire autrement, ni le triomphe du bien ne pourra se faire autrement. Laissons le Seigneur nous saisir toujours plus profondément.